France Culture, il est 18h et le journal vous est présenté par Anne Fauquemberg. Bonsoir Anne.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. À 48 heures du référendum d'autodétermination en Catalogne, les acteurs sont en place et campent sur leur position. Dernière mise en garde de Madrid ce midi, affirmation du gouvernement régional qui appelle à la résistance passive sa population. Notre envoyée spéciale, Annabelle Grelier, sera en direct au début de ce journal. Détermination également des Kurdes irakiens qui ont voté pour l'indépendance. Lundi dernier, les sanctions de Bagdad commencent à tomber. Et ça y est, les liaisons aériennes avec l'étranger ont cessé depuis les deux aéroports de la région. Explication d'Omar Waman dans un instant. En Russie, à l'approche d'une année présidentielle, le principal opposant à Vladimir Poutine, Alexei Navalny, arrêté ce matin à Moscou. Les autorités s'inquiètent du succès de ces meetings. Précision à suivre de Claude Brouillot. La politique en France, journée marquée par les mots de la maire de Lille, la socialiste Martine Aubry, remontée ce midi contre la loi travail, nous l'entendrons. En Haute-Savoie, pas de baguette magique pour le ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot. Face à la pollution de la vallée de l'Arve, il ne fait pas de promesses, mais demande la confiance des citoyens. Enfin, l'enquête du journal de 18h ce vendredi. Gros plan sur le fiasco de la start-up Proximania. Belle aventure sur le papier, mais qui a tourné au naufrage pour des centaines d'actionnaires. Enquête signée Élodie Guéguin à la fin de ce journal. C'est donc un week-end sous haute tension qui se dessine en Catalogne. Les séparatistes sont déterminés à organiser leur référendum d'autodétermination. En dépit des millions de bulletins de vote saisis par Madrid, de la décision de justice espagnole de placer sous scellés les bureaux de vote, des renforts de police envoyés en Catalogne, eh bien le gouvernement régional trouve ses solutions. Conférence de presse organisée à Barcelone ce midi. Le président de la région de la Catalogne, Carles Puigdemont, l'affirme, 2000 lieux de vote seront bel et bien ouverts. Bonsoir Annabelle Grelier.
Bonsoir Anne.
Vous êtes notre envoyée spéciale en Catalogne. Les indépendantistes appellent les électeurs à se rendre aux urnes en signe de résistance passive au pouvoir de Madrid.
Oui, alors tous les efforts de Madrid et les moyens déployés dans la région pour empêcher le scrutin seront-ils impuissants face à la détermination des séparatistes? Oui, c'est ce qu'affirme encore ce soir le président de la Catalogne. 2315 bureaux de vote, dont plus de 200 à Barcelone, seront ouverts dimanche, assure-t-on à la généralité. Il y a des urnes, des bordereaux, tout ce qu'il faut pour que le peuple exprime son opinion. Votez en faisant preuve de civisme et de responsabilité et ne répondez pas aux provocations de ceux qui chercheront à empêcher le vote, a déclaré son porte-parole ce soir. Les indépendantistes appellent les électeurs à se rendre donc en masse dans les bureaux de vote, quitte à créer des files d'attente sans forcer les barrages s'ils ne pouvaient pas accéder aux urnes.
Et on entend des bruits derrière vous, Annabelle. La population organise également ses propres actions?
Oui, alors les dockers, des pompiers, des agriculteurs et des étudiants se sont déjà mobilisés, se disent prêts à apporter leur soutien, alors que les tribunaux régionaux ont ordonné à la police d'investir les écoles qui doivent servir de bureaux de vote. Des parents ont lancé un appel pour organiser des veillées dans les établissements scolaires avec des tentes, des sacs de couchage. Selon les organisateurs, 60 000 personnes se sont déjà inscrites. Des organisateurs qui, eux, appellent les bénévoles à prendre la relève dès 7h du matin dimanche. En revanche, pour éviter de mettre de l'huile sur le feu, les partisans du maintien de la Catalogne dans l'Espagne ont annulé de leur côté une manifestation qui devait avoir lieu dimanche et appellent simplement à boycotter le scrutin.
Merci Annabelle Grelier, vous étiez en direct de Barcelone. Les Kurdes d'Irak campent également sur leur position après avoir voté l'indépendance de leur région en début de semaine, en dépit cette fois-ci des pressions de Bagdad, mais aussi de la Turquie et de l'Iran. Les autorités autonomes d'Erbil ne veulent pas rendre le contrôle des postes frontières au gouvernement central. Conséquence également de ce scrutin, l'espace aérien du Kurdistan est actuellement interdit aux vols internationaux. Omar Waman, vous l'avez constaté depuis l'aéroport d'Erbil où vous vous trouvez.
C'est à 16h50 cet après-midi que le dernier vol international a décollé en direction de l'Europe. Depuis, seules les liaisons intérieures opérées par la compagnie aérienne nationale Iraqi Airways sont désormais autorisées. Tous les autres vols ont été annulés. Mais ce blocus aérien, pour une durée indéterminée, ne concerne pas les vols militaires et humanitaires qui vont continuer à utiliser les deux aéroports du Kurdistan, celui d'Erbil et plus à l'est, à Souleymaniye. Ce matin, Des centaines de passagers se pressaient devant les comptoirs d'enregistrement pour quitter la région. Parmi eux, de nombreux étrangers qui ont anticipé leur départ pour éviter d'être coincés. Jusqu'à la dernière minute, les autorités kurdes ont tenté de négocier avec le pouvoir central, mais le dialogue est rompu. Bagdad exige avant toute chose l'annulation du référendum et la remise au pouvoir central des postes frontières et des aéroports contrôlés par les Kurdes, une demande jugée inacceptable par le Kurdistan.
Explication signée Omar Waman, envoyé spécial à Erbil. Les États-Unis rappellent plus de la moitié de leurs diplomates à la Havane, conséquence de mystérieuses attaques recensées contre le personnel américain à Cuba. Des attaques comme des bruits stridents, des grondements qui ont perturbé l'audition d'au moins 21 personnes cette année. Le département d'État américain appelle aussi ses ressortissants à éviter de se rendre sur l'île en raison des risques liés à ces étranges attaques audio, attaques qui ont aussi touché des diplomates canadiens. Au sommet européen, des chefs d'État organisés à Tallinn, en Estonie, aujourd'hui. Le Brexit est toujours sur le devant de la scène. Les progrès ne sont pas suffisants pour ouvrir d'ici à la fin du mois d'octobre une nouvelle phase de négociation. C'est ce que déclare le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, des regrets partagés par les 27 chefs d'État présents. Concernant le sujet principal, à savoir la taxation des GAFA, du nom des géants du numérique, Google, Apple, Facebook et Amazon, Emmanuel Macron a souhaité à l'instant une régulation ambitieuse, mais il y a peu de chance qu'une solution émerge d'ici ce soir, Nathanaël Charbonnier.
Tout est affaire de volonté politique et à Tallinn, il semble que la volonté politique soit là. Il n'était il y a quelques jours encore qu'une petite dizaine de pays à défendre l'idée française de taxer sur le chiffre d'affaires les grandes multinationales de l'Internet. Il s'avère qu'aujourd'hui, ce sont près de 20 pays qui accepteraient de faire évoluer leur législation fiscale. Mais voilà, 20 pays, ce n'est pas 27. Il en manque encore. C'est ainsi que pour faire plier les récalcitrants, les défenseurs du projet disposent de plusieurs boutons sur lesquels ils peuvent appuyer. Le premier, c'est la menace. Ceux qui, comme l'Irlande, freinent des quatre pieds doivent avoir conscience qu'ils ne peuvent pas d'un côté pratiquer des taux d'imposition avantageux qui déstabilisent l'Union et de l'autre vouloir recevoir des fonds européens. Le second, c'est la bonne volonté. La France va ainsi ramener en 5 ans à 25% son taux d'imposition sur les bénéfices des sociétés contre 33% aujourd'hui. Enfin, le troisième, c'est la pression. La Commission européenne devrait dès 2018, c'est-à-dire demain, faire des propositions afin d'aboutir à un accord. Pas de doute, la volonté politique est là.
Compte rendu de Nathanaël Charbonnier. Il avait organisé plusieurs réunions publiques ces dernières semaines en Russie et rassemblé des milliers de personnes. Le candidat à la présidentielle de 2018, Alexei Navalny, a été arrêté ce matin. Les faits se sont produits à Moscou, à la sortie du domicile de cet opposant à Vladimir Poutine. Claude Brouillot, vous nous expliquez exactement ce que les autorités lui reprochent.
Non-respect des règles d'organisation d'un rassemblement, le dernier support juridique trouvé par le Kremlin pour entraver la volonté d'Alexei Navalny de fédérer son mouvement jusque dans les régions, a commencé en fait à se mettre en place le mois dernier. Le principal opposant de Vladimir Poutine a été condamné à une amende de 300 000 roubles, environ 5 000 euros. S'en est suivi une série d'obstacles à chacun de ses meetings en région pour dénoncer la corruption du pouvoir. Avec par exemple dans la ville de Oufa, à l'est de la Russie, pas moins de 22 demandes refusées pour organiser une réunion sur place. À peine interpellé, Alexei Navalny assure depuis le poste de police où il est sommé de s'expliquer que cette nouvelle stratégie d'intimidation est directement liée au succès de son mouvement en région. 60 bureaux ouverts pour son collectif sont aujourd'hui actifs, un peu comme si ces deux dernières détentions administratives au printemps et en été avaient en quelque sorte dopé sa crédibilité et celle de son discours au-delà de Moscou. En tous les cas, cette nouvelle interpellation d'Alexei Navalny n'est pas le fruit des hasards du calendrier. La semaine prochaine, en effet, Navalny doit en principe occuper la tribune à Saint-Pétersbourg, la ville de Vladimir Poutine.
Correspondance à Moscou, signé Claude Brouillot. En Allemagne, et en dépit des critiques d'Angela Merkel, l'ex-chancelier Gerhard Schröder annonce qu'il prend la tête du conseil d'administration du géant pétrolier russe Rosneft. Gerhard Schröder, qui est un ami de longue date du président russe Vladimir Poutine. Et puis quasiment une semaine après la réélection de la chancelière, c'est une nouvelle qui tombe bien pour la politique d'Angela Merkel. Les indicateurs montrent que le nombre de chômeurs en Allemagne a baissé bien plus que prévu en ce mois de septembre. Le taux de demandeurs d'emploi est tombé à 5,6%, son plus bas niveau depuis la réunification de 1990, Nathalie Versieux.
Angela Merkel a fait campagne sur le thème du plein emploi à l'horizon 2025. Le plein emploi, c'est moins de 3,5% de chômeurs. L'Allemagne s'en rapproche donc. Jamais le pays n'a compté autant d'actifs sur le marché du travail. Et les caisses sociales, caisses retraite comme assurance chômage, les caisses sociales donc, sont régulièrement excédentaires depuis des années. Mais il y a un revers de la médaille, dénoncé notamment par les néo-communistes de Die Linke, et c'est l'emploi précaire. Le pays compte 2,5 millions de personnes vivant de mini-jobs, des emplois plafonnés à 450 euros net par mois. Pour payer un loyer, il faut au minimum deux mini-jobs, souligne Die Linke. 1,2 million de salariés touchent par ailleurs un salaire si faible qu'ils perçoivent en parallèle des prestations sociales pour ne pas passer sous le seuil des minimums sociaux. La proportion de ces travailleurs pauvres diminue de façon régulière depuis que l'Allemagne a introduit le salaire minimum en 2015.
Merci Nathalie Versieux pour vos précisions. L'Allemagne et son modèle économique à double facette. Le sujet a été au cœur du débat hier soir entre Jean-Luc Mélenchon et le Premier ministre Édouard Philippe. Débat organisé sur France 2 au cours duquel le chef de file de la France insoumise a fustigé, je cite, les emplois à 1 euro et les 13 millions de pauvres que compte le pays. Jean-Luc Mélenchon qui a aussi réitéré ses attaques contre la loi travail sans aller jusqu'à parler de coup d'état social mais sans mâcher ses mots. Martine Aubry semble lui avoir emboîté le pas. Ce midi, la maire socialiste de Lille présentait son bilan de mi-mandat en tant qu'élue locale.
Et aujourd'hui, on marche, on voit ce que c'est. C'est une loi travail qui est une régression sociale terrible, une loi écrite par le MEDEF, une loi à la thatchérienne, et c'est un budget mais de réponse des années 80, totalement libéral. On baisse de 3 milliards l'ISF et on va raboter 5 euros sur l'APL. On augmente la CSG pour les personnes âgées. On augmente le forfait hospitalier. Mais oui, c'est une politique pour les riches. Moi, j'ai pas l'habitude de parler comme ça. Mais c'est une politique que Reagan aurait menée. C'est pour le CAC 40. C'est pas une politique pour la France. Et ça n'aura pas les bons résultats. Parce que c'est pas en rendant les riches toujours plus riches qu'un pays va mieux. Le gouvernement est un gouvernement de droite avérée. Et il fait une politique que j'imagine que même Jacques Chirac n'aurait même pas osé y penser, tellement elle est à droite et tellement elle est libérale.
La maire de Lille, Martine Aubry, sur BFM TV. Nos vallées polluées, population en danger, slogan déployé par les citoyens en Haute-Savoie à l'occasion de la venue de trois ministres aujourd'hui dans la vallée de l'Arve, vallée qui subit de gros problèmes de pollution, notamment à cause du trafic de poids lourds. La ministre des Transports, Elisabeth Borne, celle de la Santé, Agnès Buzyn, ont ainsi été interpellées, mais aussi Nicolas Hulot, le ministre de la Transition écologique, était à Chamonix cet après-midi sans baguette magique.
La seule chose que je suis venu dire ici, mais c'est un message que j'envoie pour l'ensemble du territoire, c'est que notamment le ministère du Transport, le ministère du Logement, de la Cohésion des Territoires, mon ministère, on va prendre en charge ce sujet sur la durée. Mais je ne peux pas faire la promesse de le résorber demain matin. Ce qu'il faut simplement, c'est pas s'isoler, c'est de ne pas penser qu'à Paris tout seul, on va pouvoir prendre ça en charge. Et il faut écouter aussi les acteurs locaux et les ONG, parce qu'ils ont parfois des mesures de bon sens, et parfois les acteurs locaux ont besoin que l'État serve de levier économique, de levier réglementaire, de levier normatif. Donc on rentre dans un dispositif de co-construction, interroger les élus, je pense que c'est ça qu'ils attendent, c'est la méthode, la gouvernance et la complémentarité des actions avec une vision court terme, moyen terme et long terme.
Des propos recueillis par François Madeuf. Toujours à propos de pollution, une étude inquiétante publiée aujourd'hui. Elle montre que les émissions de méthane issues de l'élevage sont plus importantes qu'on ne le pensait jusqu'ici. Ces émissions de gaz à effet de serre de type CH4, en partie responsables du changement climatique, seraient moins persistantes mais beaucoup plus réchauffantes que le CO2. Émissions liées au phénomène de fermentation lors du processus de digestion du bétail, mais aussi au mode de stockage et de traitement des déjections. Les lobbyistes de Monsanto ne sont plus les bienvenus au Parlement européen. Une demande des groupes politiques a en tout cas été adressée à l'institution dans ce sens. En cause, le refus du géant américain de l'agrochimie de participer à une audition sur le glyphosate et les Monsanto Papers le 11 octobre prochain. Cette interdiction d'accès serait une première au Parlement européen, Lax Milota.
C'est une nouvelle règle qui date du début de l'année. Des lobbyistes peuvent se voir retirer leur badge d'accès. Les représentants de Monsanto ne doivent plus pouvoir accéder au Parlement européen, demandent les présidents des groupes politiques. L'institution doit prendre une décision à ce sujet mardi prochain. Le 11 octobre, les eurodéputés voulaient interroger le géant de l'agrochimie sur les Monsanto Papers, des documents déclassifiés par la justice américaine qui montrent que l'entreprise sait depuis des années que le glyphosate, cette molécule utilisée dans l'herbicide Roundup, comporte des risques pour la santé. Monsanto a refusé de se rendre à cette audition au Parlement, affirmant que le lieu n'était pas approprié pour aborder de tels sujets. Cette affaire intervient au moment où l'Union européenne doit se pencher sur le renouvellement ou non de l'autorisation du glyphosate. Sa licence expire à la fin de l'année.
Et cette réunion pour les États membres qui doivent donc décider de la réautorisation du glyphosate pour 10 ans, elle se tiendra les 5 et 6 octobre prochains. L'enquête du journal de 18h, gros plan sur le fiasco de la start-up Proximania, fiasco qui s'élève à 80 millions d'euros. Bonsoir Élodie Guéguin.
Bonsoir.
C'est vous qui avez mené cette enquête en partenariat avec le magazine Sans Froid. Dans cette affaire, la justice française est saisie. Près de 500 actionnaires estiment avoir été floués par le fondateur de cette start-up.
Oui, il s'appelle Laurent Troud. Il y a 10 ans, alors qu'on est en plein boom de la téléphonie mobile, on le présente comme le nouveau Xavier Niel. Il dit avoir mis au point un concept révolutionnaire, vendre des minutes de téléphone prépayées dans les bureaux de tabac. Et pour séduire les investisseurs, il organise des petits déjeuners dans des cafés branchés de Paris, avec une ambition affichée d'atteindre un chiffre d'affaires, tenez-vous bien, d'1 milliard d'euros. À aucun moment, raconte Frédéric Davizard, qui préside aujourd'hui l'association de défense des actionnaires de Proximania, à aucun moment on n'a pensé qu'il y avait un loup.
Son projet était bien présenté par une société de bourse connue. Les comptes qui étaient disponibles étaient certifiés par un commissaire aux comptes qui lui-même était le président de la compagnie des commissaires aux comptes de Versailles. Enfin, l'ensemble a été suffisamment convaincant pour que de nombreuses participations, dont moi et beaucoup d'autres, décident d'investir.
Si les investisseurs y croient, c'est aussi parce que Proximania met en avant des partenariats avec les grands opérateurs de téléphonie mobile.
Oui, alors le problème, c'est que ces accords, ils n'auraient jamais existé, selon le journaliste de Sang Froid, Antoine Rouget.
En fait, il n'y avait aucune convention passée avec ces opérateurs-là. Les clients pouvaient finalement se fournir que auprès d'un opérateur très marginal. Et ensuite, Proximania a émis des volumes absolument astronomiques de factures pour un volume de transactions de 220 millions d'euros qui ne se retrouve pas dans la comptabilité des entreprises. SFR, Orange et Bouygues ont été sollicités par les services enquêteurs. Et ils répondent Proximania n'a jamais été client de nos sociétés pour ces opérations-là.
Oui, en épluchant les comptes, il apparaît qu'il n'y aurait pas seulement des problèmes de factures qui auraient été falsifiés. Chiffres à l'appui, Antoine de Ménibus, l'un des actionnaires de Proximania, nous donne quelques exemples.
Le chiffre d'affaires de 2006 sur lequel se basaient la plupart des investissements qui ont été réalisés en 2007 et 2008. Ce chiffre d'affaires était prétendument de 9 millions d'euros. En réalité, il y avait 9 181 euros sur le compte en termes d'encaissement, en recettes. Pour 2007, théoriquement 55 millions d'euros, en réalité 12 000 et quelques centaines d'euros. La différence, c'est considérable.
Oui, et les actionnaires veulent savoir où est passé leur argent. Le fondateur de Proximania a été mis en examen pour faux, abus de biens sociaux et escroquerie, mais l'enquête traîne depuis 7 ans, ce qui n'est pas sans conséquence selon Antoine Rouget.
La lenteur de la justice a clairement permis à Laurent Troud d'organiser son insolvabilité en France. Donc aujourd'hui, il réside en Suisse et en 2011, il a habilement mis à l'abri de la justice française et donc de potentielles saisies un certain nombre de biens immobiliers. C'est notamment le cas d'un appartement à Paris qu'il a vendu en janvier 2011 pour 450 000 euros. Il s'était engagé à utiliser cet argent pour payer sa caution. Et il a finalement versé cet argent sur des comptes à l'étranger, donc a récupéré le bénéfice de cette vente à l'étranger sans verser un centime à la justice française.
Et Laurent Troud, le jeune start-upper qui a fait faillite, qu'est-ce qu'il répond à ces accusations ?
Devant le juge, il se serait défendu de toute malversation. Nous lui avons proposé de s'exprimer, ainsi qu'à son avocat. Maître Perrault nous a répondu qu'il ne souhaitait pas commenter des procédures judiciaires en cours.
Merci Élodie Guéguin. Votre enquête est à découvrir et à lire en longueur sur notre site internet franceculture.fr. La météo de demain matin, samedi 30 septembre. La France coupée en deux sur une diagonale Strasbourg-Biarritz. Ça sera pluvieux à l'est de cette ligne, plus lumineux à l'ouest et les températures 15 à Lille, Paris et Cherbourg, 17 à Strasbourg et Lyon, 18 à Lille, 22 à Marseille et à Ajaccio. Ce journal a été préparé avec Mathilde Julien. À la technique, c'était Pierrick Monsigny.